Trahison. Dès qu'elle fut recouverte de col et de pelage, Élodie reprit le chemin du palais, Tinky Winky sur ses talons. Cette fois, les deux amis étaient bien décidés à en finir. La folie de Boromidas aurait tôt fait de détruire le royaume des rêves, il fallait mettre le tyran hors d'état de nuire, et cela le plus vite possible. Lorsque l'aube se leva, Élodie et le lapin se glissèrent dans le manoir au milieu des autres domestiques. Le bâtiment était si vaste que les serviteurs étaient en nombre insuffisant pour l'entretenir. Il y avait tant de pièces, de salles, d'antichambres, de salons, de bibliothèques, que la bataille contre la poussière semblait perdue d'avance. On l'avait à peine essuyée qu'elle retombait déjà en fine couche grise, et il fallait recommencer à zéro. Cet état de choses convenait à Élodie, car elle disposait ainsi d'une formidable excuse pour fourrer son nez partout. Elle avait vite remarqué que les sentinelles s'ennuyaient. Beaucoup d'entre elles dormaient debout après avoir pris la précaution de caler leur armure entre deux piliers. D'ailleurs, les soldats s'étaient déjà habitués aux allées et venues de la guenon de ménage et ne lui prêtaient plus attention. Élodie, elle, restait en alerte. Elle savait que Boromidas pouvait se cacher n'importe où et l'observer. Il avait peut-être pris la forme de ce buste de marbre, de cette chaise ou, pourquoi pas, de ce papier peint parsemé de fleurs de lys dorées. Elle se faufila dans le petit salon, les nerfs tendus à craquer. Le coffret contenant les pilules de solidité se trouvait toujours sur la cheminée, mais elle n'osait l'ouvrir. Que se passerait-il si Boromidas se cachait en ce moment même dans la pièce, déguisé en pot de fleurs? Le comportement de cette guenon lui paraîtrait à coup sûr étrange. Elle hésita. Pour gagner du temps, elle s'appliqua à nettoyer les objets qui l'entouraient. L'un d'eux était-il son oncle? Elle frotta fort, essayant de déterminer si elle avait affaire à de vrais meubles ou à un homme déguisé en fauteuil. Soudain, elle eut une idée. S'approchant de la cheminée, elle feignit un faux mouvement et fit tomber le coffret de son perchoir. Les cachets se répandirent sur le plancher comme les perles d'un collier dont le fil vient de se casser. Poussant un grognement de stupeur, elle s'agenouilla et entreprit de ramasser les comprimés un à un. Au bout d'un moment, elle porta l'un d'eux à son nez, fit mine de le flairer avec gourmandise, puis le glissa dans sa bouche. Elle se livra ensuite à une série de mimiques destinées à prouver qu'elle trouvait la friandise fort à son goût. En réalité, elle se garda bien d'avaler le médicament et le coinça entre ses joues et ses dents. La minute d'après, elle entassa les cachets dans les poches de son uniforme en jetant des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule. De cette manière, songea-t-elle, si Boro est en train de m'espionner, il pensera que je suis une guenon gourmande prenant les cachets de solidité pour des bonbons. Et il n'y verra pas malice. Elle était assez contente de cette ruse. Si Boromidas se trouvait bien dans la pièce, il ne se manifesta pas. Et l'adolescente quitta le salon sans être le moins du monde inquiétée. La première partie du plan est remplie, se dit-elle. J'ai les cachets. Il faut maintenant se débrouiller pour les faire avaler à oncle Boro sans qu'il s'en doute, et ça, ce sera moins facile. À plusieurs reprises, elle croisa Tinky Winky au détour d'un couloir. D'un mouvement d'oreille, il lui fit comprendre qu'il n'avait toujours pas découvert où l'usurpateur prenait ses repas. C'est dans ce but qu'il s'était débrouillé pour être affecté aux cuisines. Il espérait que le maître coq lui confierait le plateau destiné au roi. Hélas, Boromidas Ier demeurait introuvable. Il est devenu tellement méfiant qu'il prépare peut-être sa nourriture lui-même, par crainte d'être empoisonné, songea Élodie. Voilà qui ne ferait pas notre affaire. Plus le temps passait, plus elle devenait nerveuse. Alors qu'elle se préparait à franchir le seuil de la grande bibliothèque de l'aile ouest, elle vit, sur l'une des étagères, un gros livre de cuir devenir tout mou et se mettre à couler comme du fromage en train de fondre. Il avait suffi de 3 secondes pour que le grimoire perde son apparence de livre et se transforme en une répugnante limace qui rampait à présent au long des étagères. C'est oncle Borot, pensa-t-elle en se dissimulant derrière une tenture. Il va changer de cachette. Elle s'aplatit contre la muraille et retint son souffle. La limace géante se promenait sur le sol. Elle ne semblait pas savoir où elle allait. Tout à coup, la porte s'ouvrit et le magicien apparut. Un chevalier en armure le suivait. Élodie vit qu'il s'agissait du baron d'Acier, ce méchant homme qui commandait la garde personnelle du tyran. « Voilà ce que je craignais, haleta le sorcier. Regardez dans quel état se trouve notre roi bien-aimé. Cela fait des semaines que j'essaie de le convaincre de prendre ses médicaments de solidité. Mais il n'écoute pas. Je viens de vérifier. Il a jeté les comprimés que je lui ai remis hier, ceux que j'avais dosés pour un effet rapide. Le coffret est vide. Oh, c'est un fier entêté, mais il va s'en repentir. » Les deux hommes s'immobilisèrent au-dessus de la limace géante qui continuait à tourner en rond sur le tapis. Le magicien semblait désolé, mais le chevalier, lui, réfléchissait intensément comme s'il mettait au point quelque fourberie. « C'est lui ? » demanda-t-il en donnant un léger coup de pied à la limace. « Vous en êtes certain ?»« Oui, » se lamenta le vieillard. « Ça devait arriver, je l'avais prédit. » À force de se gaver d'élixir de métamorphose, son corps a fini par perdre la mémoire. Il est passé par tellement de formes qu'il ne sait plus laquelle est la bonne. Le baron fit la grimace. De toute évidence, le gastéropode le dégoûtait. Il risque de rester comme ça, s'enquit-il. C'est bien pire, chevrota le magicien. Il va se transformer en flaque caoutchouteuse. Dans quelques heures, ce ne sera plus qu'une espèce de gros chewing-gum rose incapable de bouger. Il faut lui faire des piqûres de solidité. Vous allez m'aider à transporter cette limace dans mon laboratoire. Personne ne doit voir le roi dans cet état. Ce serait catastrophique. Le sorcier s'agenouilla et entreprit d'emballer la bestiole dans le tapis pour la dissimuler au regard. Le baron d'Acier consentit à l'aider avec une répugnance visible. « Vous pensez vraiment qu'il a une chance de redevenir normal ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, avoua le vieil homme. Ma potion de solidité est très efficace. En l'injectant à petite dose, nous permettrons à l'organisme du roi de recouvrer sa forme première. Mais cela prendra du temps. Je ne peux pas lui en injecter une dose trop forte. Cela le changerait en bloc de pierre pour les 2 siècles à venir. Hum, hum, fit le baron sans se compromettre. Portant le tapis qui gigotait curieusement, les deux hommes quittèrent la bibliothèque. Élodie leur emboîta le pas en rasant les murs. Écoutez, fit soudain le chevalier, je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Que voulez-vous dire, cher baron ? S'étonna le magicien. « Je veux dire qu'il est inutile de farder la vérité. Boromidas est devenu fou. Il nous entraîne à la catastrophe. Bientôt, il se méfiera de vous, de moi, et nous fera exécuter par mesure de prudence au cas où nous serions des traîtres. Avez-vous envie d'être décapité ?»« Bien sûr que non, glapit le sorcier, dont la barbe tremblait comme la branche d'un sapin dans le vent d'hiver. » « Alors, il faut saisir l'occasion, haleta le baron. Ne faites aucune injection à cette limace. Laissez-la se changer en chewing-gum. Lorsqu'elle sera incapable de bouger, nous l'enfermerons dans l'une des fichues valises que Boromidas entasse à la cave depuis son couronnement. « Mais, c'est une trahison que t'as le vieillard. »« Non, corrigea le chevalier, c'est un coup d'état. » Boromidas était un imbécile. Je ne l'ai aidé que parce que je comptais bien me débarrasser de lui dès que l'occasion se présenterait. Ce moment est arrivé, je vais devenir maître des rêves à sa place. Boromidas manquait de poigne, c'était un rêveur, un mollasson. Moi, je dirigerai le royaume d'une main de fer.
Je ne sais pas, bégaya le vieil homme.
Il va falloir choisir, gronda le baron d'acier. Si tu n'es pas avec moi, tu seras contre moi, et je devrai te trancher la tête.
Bon, d'accord, fit son interlocuteur. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Il suffisait de m'expliquer. Maintenant, je vois bien que vous avez raison.
Le baron jeta le tapis sur le sol. La limace en sortit en rampant. Il lui donna un coup de pied.
« Laissons notre bon roi gigoter, ricana-t-il entre ses dents de fer. Il n'aimait pas les pilules de solidité? Eh bien, nous nous garderons de lui en faire avaler contre son gré, n'est-ce pas?
Dans une heure, il aura perdu toute faculté de se déplacer, diagnostiqua le magicien. Ce ne sera plus qu'un gros tas de gomme à mâcher. Il n'en sera que plus facile à tasser dans une valise.
Les deux hommes s'éloignèrent en murmurant. Élodie entrebâilla la porte derrière laquelle elle s'était cachée. « C'est une catastrophe, se dit-elle. Nous n'avions pas prévu ça. Le baron est de toute évidence encore plus méchant qu'oncle Borot. S'il prend le pouvoir, ce sera dramatique. » Elle s'aperçut qu'elle tremblait. Rebroussant chemin, elle descendit aux cuisines pour avertir Tinky Pinky de ce qui se passait. Le lapin en fut atterré. « Il faut à tout prix empêcher le baron de monter sur le trône, balbutia-t-il. C'est un homme cruel. À côté de lui, Boromidas n'était qu'un amateur. Mais le baron est à la tête d'une armée. Comment faire ?»«
Je crois que j'ai une idée, souffla Élodie. Les comprimés de solidité. Au lieu de les faire absorber à Boro, faisons-les manger par le baron et ses soldats. Mais oui, je pourrais les dissoudre dans la soupe qu'on va servir à midi. Ce serait une sacrée surprise. J'espère seulement qu'il y en aura assez. »
L'adolescente s'empressa de transvaser le contenu de ses poches dans celle du lapin. « Préviens les animaux de ne pas toucher au repas de midi, chuchota-t-elle. Ce serait embêtant qu'ils se changent, eux aussi, en statues. Les bêtes ne mangent pas avec les soldats, tu sais bien, fit Tinky Pinky. « Maintenant, va-t'en. Il serait mauvais qu'on nous surprenne en train de comploter. Le cuisinier ne m'inspire pas confiance. » La jeune fille obéit. Elle remonta dans les étages, nerveuse, persuadée que tout allait se jouer au cours des prochaines heures. La situation se révélait encore plus grave qu'elle ne l'avait pensé. Elle s'aperçut qu'elle transpirait sous l'effet de l'angoisse. C'était fâcheux, car la sueur avait tendance à diluer la colle dont elle était enduite. Chaque fois qu'elle faisait un geste, des poils se détachaient de ses bras pour voler dans les airs. « Zut » pensa-t-elle, « si ça continue, je vais perdre mon déguisement. » Il aurait fallu qu'elle arrête de transpirer, mais comme elle s'inquiétait maintenant encore plus qu'auparavant, elle suait davantage. Elle essaya de se cacher dans un coin pour remuer le moins possible. Hélas, un garde la débusqua et lui ordonna de reprendre le travail si elle ne voulait pas être corrigée à coups de fouet. Dès lors, il s'obstina à la suivre pour vérifier qu'elle faisait le ménage comme il convenait. Élodie était de plus en plus effrayée car des poils noirs se détachaient de ses mains dès qu'elle touchait quelque chose. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front. Elle comprit qu'à ce train-là, son masque de fourrure ne tarderait pas à partir en lambeaux. Alors qu'elle traversait la bibliothèque, elle vit qu'oncle Borot avait perdu son apparence de limace. Il gisait maintenant sur le tapis, sous la forme d'un gros tas de pâtes rosâtres. Elle le toucha sans qu'il réagisse. Il n'avait plus de muscles, plus d'os. Ce n'était qu'une flaque de caoutchouc vivant, un caoutchouc si mou qu'on aurait vainement essayé de le modeler pour lui donner un aspect quelconque. Un bruit de pas dans le couloir la fit s'enfuir. Le baron et le magicien apparurent. Le baron tenait une valise. Il la posa sur le sol et ordonna au vieillard d'y enfourner ce qui restait de Boromidas. « Je ne veux pas toucher cette saleté, grogna-t-il. C'est peut-être contagieux. » Élodie, dissimulée derrière un rideau, ressentit un pincement au cœur en voyant le sorcier tasser Boromidas au fond du bagage et en claquer le couvercle.
« Parfait, approuva le baron. Cela lui servira de prison. Personne ne pensera jamais à le chercher là-dedans. »
Toujours ricanant, il s'approcha du miroir suspendu au-dessus de la cheminée pour rectifier sa coiffure.
« Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble, lança-t-il au magicien.
Il était grand temps d'apprendre aux gens de ce royaume ce qu'est la discipline. On leur a trop laissé la bride sur le cou. J'ai très envie de déclarer la guerre au peuple du monde réel.
« Quoi ? » halta le vieillard. « Mais cela ne s'est jamais fait.
Et alors, ce sera amusant, gronda le baron. Nous pourrions les rendre fous de terreur en bombardant leur esprit de cauchemars si terrifiants qu'ils n'oseraient même plus dormir.
« Oui, j'ai envie de remplacer les trains des rêves par des bombardiers. Des bombardiers qui lâcheraient leurs cauchemars dans la tête des dormeurs. Après quelques mois de ce traitement, ils seraient prêts à nous obéir au doigt et à l'œil. Tu peux m'en croire, vieil homme. »
Les deux complices se retirèrent pour aller cacher la valise à la cave, là où Boromidas avait entreposé les provinces miniaturisées. La cloche du déjeuner sonna enfin. Élodie ne tenait plus en place. Elle descendit au réfectoire et se mêla aux marmitons pour s'assurer que les soldats venaient à tour de rôle, se régaler avec la soupe pimentée au cachet de solidité que leur avait concocté Tinky Pinky. Toutefois, elle fut déçue de voir que, sitôt le repas expédié, ils se relevaient comme si de rien n'était pour aller reprendre leur faction.
« Ça n'agit pas, » souffla-t-elle au lapin qu'elle avait entraîné à l'écart.
« Sans doute faut-il attendre un peu, » supposa l'animal. Ça faisait beaucoup de soupe pour si peu de comprimés. J'espère qu'ils étaient très concentrés, sinon c'est tout juste s'ils écoperont d'un torticolis ou d'un lumbago.
Ne plaisante pas avec ça. Si notre ruse échoue, nous sommes fichus. Le baron prendra le pouvoir et déclarera la guerre au monde réel.
Elle dut se retirer, car le maître coq admodestait vertement Tinky Pinky qui l'accusait de flémarder. La mort dans l'âme, la jeune fille regagna le palais. Elle savait qu'elle jouait sa dernière carte. Si elle échouait, elle ne disposerait plus d'aucun moyen pour empêcher le baron d'acier de parvenir à ses fins. Elle n'était qu'une fillette, et lui, un chevalier rompu au pire combat. Il lui arracherait la tête aussi facilement qu'on brise un petit pain en deux. Une heure après la fin du repas, elle eut la surprise de voir le baron réapparaître. Il déambulait au long des couloirs, passant d'une pièce à l'autre, l'air soucieux. Chaque fois, il s'arrêtait devant une cheminée et se contemplait dans le miroir suspendu au mur. S'imaginait-il déjà coiffé de la couronne royale? Quel prétentieux, pensa-t-elle. Puis, elle vit que le chevalier faisait courir son index sur les meubles, les tables, comme s'il vérifiait que la poussière avait bien été essuyée.
« Le voilà qui se croit propriétaire du palais, » ragea intérieurement Élodie. « Il va exiger que tout soit briqué comme un sou neuf, alors qu'il y a seulement 2 heures, il n'y faisait même pas attention. » Elle était énervée.
De temps à autre, elle jetait un coup d'œil par la fenêtre, avec l'espoir de découvrir les sentinelles changées en statues. Mais les soldats continuaient à aller et venir, la lance sur l'épaule.
« Ça ne marchera pas, » se lamenta-t-elle. « Il n'y avait pas assez de cachets.
Oh, j'aurais dû m'en douter. Quel manque de chance !» Elle était si préoccupée qu'elle ne pensait même plus à donner le change et négligeait son ménage. Soudain, elle se retrouva nez à nez avec le baron qui l'observait, le sourcil froncé.
« Garde, » hurla-t-il, « arrêtez cette guenon, c'est une espionne !»
Élodie esquissa un mouvement de fuite, mais les sentinelles l'entouraient déjà, pointant sur elle leurs redoutables épées.
« Ce n'est pas une guenon, » grogna le baron, « c'est une enfant déguisée.
Je m'en suis douté lorsque j'ai découvert des poils noirs tachés de colle éparpillés sur les meubles.
Saisissez-vous d'elle !
Des cantelets d'acier s'abattirent sur les épaules de l'adolescente, la clouant sur place. Le baron s'approcha et, d'un geste brusque, arracha le masque de fourrure collé sur le visage de la fillette.
« Voyez-vous ça ! Triompha-t-il. La princesse Élodie en personne ! Quel honneur ! Vous tombez à pic, votre Altesse. Puisque le hasard en a décidé ainsi, je mettrai un terme à votre dynastie aujourd'hui même. »
« Lâchez-moi !» vociféra la jeune fille. « Vous n'êtes qu'un rebelle, un hors-la-loi, un traître !»«
Ça suffit !» siffla le chevalier en sortant son épée. « Je vais te couper la tête, petite dinde !»
L'un des soldats éclata d'un gros rire et, tirant sur les cheveux d'Élodie, la força à tendre le cou de manière que l'épée du baron puisse décoller la tête des épaules.
« Et de une !» compta le traître. « Et de deux !» « Et de...